Bonjour à tous, les controverses du village, épisode numéro 8. Aujourd'hui, nous allons parler de la fiction d'Arte. Quelle série pour Arte qui se lance aujourd'hui dans ce nouveau mode de fiction française? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je suis Sullivan Le Postec et je suis avec Dominique Montet.
Guten Tag.
Et Émilie Flamand.
Bonjour, on va faire classique.
Alors, la fiction d'Arte, en fait, ça a été un décollage progressif et compliqué depuis 5 ans. Et là, il y a un vrai premier palier qui se franchit pour historiquement tracer les grandes lignes de ce qui s'est passé. 2005, première saison de Vénus et Apollon, format une demi-heure, un espèce d'hybride bizarre entre la sitcom et le drama. Encore une fois, un format tarabiscoté comme seuls les Français sont capables de les inventer. Et la saison 2 a suivi, mais là, reformatée en 52, 8 épisodes, a été diffusée en février 2009. Un an plus tard, en février 2010, première saison des Invincibles. Et donc là, quasiment un an après, la saison 2 des Invincibles a été diffusée ce mois de février. Et là arrive la première saison de Fortune en mars. Et puis ensuite après, mais pas dans la case série du mardi soir, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave, arrivera Xanadu à partir de la fin du mois d'avril, c'est le samedi bon soir, à 22h30.
Ah bon?
À minuit encrypté.
Ouais, c'est un peu ça.
Ça aurait été bien.
Bon, comment est-ce que vous décririez les grandes tendances de la fiction d'Arte pour vous au niveau des séries?
J'ai beaucoup de mal, justement, parce que... sans avoir vu une seule image, si ce n'est la bande-annonce et entendu les pitchs, une série comme Xanadu, je peux comprendre. C'est très particulier, c'est en marge, c'est foncièrement élitiste. Les Invincibles, beaucoup moins déjà. Bon, déjà, vous le savez sûrement, Les Invincibles, c'est une coproduction, co-diffusée par Arte et par Energy 12. Donc déjà, c'est un duo qui me semble totalement pas naturel au départ. Et je trouve que installer une nouvelle fiction sur une chaîne, c'est pas les gens qui regardent Arte habituellement qui vont regarder cette série-là, c'est très très dur. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à voir la politique de fiction d'Arte. J'ai l'impression qu'ils achètent un petit peu... les projets qui leur plaisent sans se dire est-ce que c'est vraiment fait pour nous ou est-ce que ça serait diffusable ailleurs. Alors, est-ce qu'ils essaient de dupliquer le modèle Canal+, sans en saisir un petit peu les subtilités ou,
Je sais pas. Moi j'ai le sentiment qu'un gros élément qui les drive, c'est l'idée d'essayer d'être un contre-modèle Canal+. Mm-hmm. En gros, Canal+ fait du noir, du policier, faisons autre chose. Mm-hmm. Donc faisons du léger, pas policier. Et du coup, ils partent avec ça. Et clairement, avec ce brief-là, qui en fait est trop vague, ça leur a permis de partir dans tous les sens. Et donc, ils ont lancé, du coup, parce qu'on va mettre un peu de côté Vénus et Apollon, qui a un parcours un peu particulier, et qui en fait, qui quasiment dérive. Pendant 20 ans, la fiction d'Arte, ça a été quoi? Ça a été de faire du cinéma d'auteur à la télévision. Ouais. Donc projet stérile par essence.
Ouais, ils avaient fait.
Parce que le cinéma d'auteur se fait pour passer au cinéma et enfin ils ont pu faire des très bons téléfilms. Mais quand ils faisaient un très bon téléfilm en fait, et ben il avait une sortie au
il
cinéma.
Avait une sortie donc c'était ciné, des roseaux sauvages ou voilà, de l'eau froide d'Assayas.
La journée de la jupe.
Enfin, voilà. Le péril jeune. Tout ça,
donc enfin. Donc pour Arte réussir une fiction, c'était faire en sorte qu'ils y gagnent rien parce qu'elle sortait au cinéma. C'était un concept un peu étrange.
Ils ont le même principe aussi un peu là. Hein. Quand tu mets ta série sur Dailymotion Direct, t'es quand même aussi sur le principe que le but est d'ouvrir à tout le monde et pas forcément de faire...
Sauf que quand même, sortir un film au cinéma et le mettre sur Dailymotion, c'est quand même pas exactement
la même chose. Mais bon, à l'échelle d'une série, t'as de quoi faire hurler tous les autres diffuseurs, hein, clairement.
Après, sauf que la différence, d'abord, ils le font sur les Invincibles, je pense pas qu'ils le font sur le reste. Bon, moi, je trouve que ça fait sens dans la mesure où Arte est en phase de construction. Il commence quelque chose de complètement nouveau. Ouais. Et comme, comme Dominique vient de le dire, surtout les Invincibles. Ça cadre pas avec.
Je dis pas que ça fait pas sens, que ça n'a pas de sens. Hein. Je dis juste que globalement, cette notion un peu de on tente des choses, on permet à des projets d'arriver, etc. Et derrière, notre but c'est si ça marche, on est content et on veut que tout le monde le connaisse, etc. On le met au ciné s'il faut ou autre. Là, t'as quand même globalement l'idée aussi qu'Arte.
Non, parce que quand tu vas voir les Invincibles sur Dailymotion, t'as un gros logo d'Arte, etc. Ça te ramène à Arte, tu sais que c'est un programme d'Arte, financé par Arte, et que si jamais tu veux voir le prochain épisode. Le même jour que tes collègues de travail, mettons, ou quoi que ce soit, faudra le voir sur Arte. Quand tu sors un film d'Arte au cinéma,
tu sais pas que
si
ça
t'es en tant que téléspectateur, tu fais pas gaffe au crédit dans le machin, jamais tu sais que ce que tu viens de voir, tu le rattaches à Arte.
Tu fais souvent attention à ce qui a marqué au début une coproduction Arte.
J'ai un copain qui mémorise même tous les numéros de visa.
Mais comme de toute façon, comme de toute façon, tous les films français ils sont payés par la télé. La différence entre un film payé par la télé mais pas fait pour être passé à la télé et un téléfilm qui en fait se retrouve sur un écran de cinéma, on pourrait faire la différence entre les deux juste par les crédits.
C'est juste une notion d'image. C'est juste une notion d'image. Au cinéma, ça se voit pas. Sur Dailymotion, ça se voit. Après, c'est un modèle. Je dis pas que c'est forcément le meilleur, mais c'est un modèle.
Bon, en tout cas, ouais, je pense que du coup, à l'intérieur de cette grille, faisant de l'anti-Canal+, ils ont un peu été cherchés dans tous les sens. Ce qui est quelque part aussi assez compréhensible. C'est-à-dire que finalement, je pense qu'on peut rapprocher ça de la première année des séries de Canal+. Si on regarde la première année des séries de Canal+, c'est quoi ? Engrenage. Engrenage, c'est une série policière que la chaîne pense au départ comme bouclée, et puis finalement, il y a une intrigue feuilletonnante qui est née là-dedans en génération spontanée, de manière un peu incontrôlée. Bon, mais dans leur tête, ils ont commandé de la fiction policière bouclée. T'avais Mafiosa, fiction, concept, hyper fantasmatique, enfin je sais pas comment exprimer ça, mais un truc qui n'existe pas dans la vraie vie, quoi. Reporter, hyper réaliste, choral, feuilletonnant, et sécurité intérieure, en gros, le 24 du pauvre, quoi. Bon, je suppose qu'ils n'ont pas acheté... faites-moi un 24 du pauvre, s'il vous plaît, mais... Bon, une série d'espionnage, machin, ouais. Mais voilà. Ces quatre séries, dont les quatre univers sont complètement différents. Ils ont, après la diffusion, ils ont regardé ça, ils ont dit quand même, Engrenage, Reporter, il y a une petite connexion. On tape tous les deux, on est un peu tous les deux dans le choral, on est un peu tous les deux dans le feuilleton, ouais, finalement, parce que Engrenage, il y a un feuilleton qui est apparu, et on est dans le réalisme. Peut-être que ça va être ça, notre ligne éditoriale, et donc ils ont repêché Mafiosa, et ils ont dit, bon, virez-moi les aspects qui sont pas réalistes, là aussi bien en termes d'écriture que de réalisation, qui était complètement... qui était très marqué dans la saison 1, et raccrochez-moi au wagon de ce qu'on a fait ailleurs, et refaites-moi une fiction réaliste avec Machosa, et après ils ont fait de la fiction feuilletonnante chorale réaliste sur tout le reste.
Ouais, mais c'est un peu plus simple de partir un peu sur tout quand t'es Canal+, parce qu'à la base ta chaîne part sur tout. Que sur Arte, elle est quand même très marquée. Canal, si tu dois penser tout de suite à un truc sur Canal, suivant les gens, ça va différer. Il y en a certains qui vont dire c'est le cinéma, d'autres qui vont dire c'est le film de X du samedi soir à minuit, et puis il y en a d'autres qui vont dire c'est le foot. Donc c'est le spectre est très large. Après, en effet, comme tu dis, ils se sont dégagés de leur ligne éditoriale tout seuls, mais au départ, c'est vrai que c'est un peu... tu tapes un peu à droite à gauche. À l'époque, ils ont axé sur ce qui était leur autre marque de fabrique, c'est-à-dire l'humour et l'irrévérence. Et ils se sont bananés comme c'est pas permis avec H, Blague à part, Eva Mag et compagnie.
Dans l'absolu, ça a un peu marché.
H, ça a marché, mais pourquoi ça a marché? Parce qu'il y avait un type de téléspectateur qui était content de voir Jamel, Eric et Ramzy pas respecter leur texte et faire les cons à l'écran. Mais globalement,
c'était leur grande époque, c'était voilà, les spectacles, tu surfais en global. Ouais. Quoi.
Exactement. Et on voit bien que ça s'est pas du tout déporté sur les séries où il n'y avait pas Eric Ramzy et Jamel.
Exactement.
Et donc effectivement, faire une fiction télé avec Eric Ramzy et Jamel dans toutes les séries, c'est un peu compliqué.
Non, mais globalement, oui. Après, sur Arte, parce que je suppose que c'était ça la suite, et pour revenir sur Arte, qu'est-ce qu'on peut voir de ce qu'ils ont fait actuellement, de ce qu'ils comptent faire, parce que donc Dominique nous montrait le pitch des séries en développement actuellement pour Arte.
Le spectre est très large.
Ouais, c'est il y a un truc avec des vampires, il y a un truc qui est qui est une odyssée façon l'Iliade et l'Odyssée, quoi.
Et puis une série un peu plus sociale, ministère.
Ouais, un truc avec. Alors là, c'est le côté ici, il y a le ministériel qui se dégage un peu, c'est le côté bande de potes. Ils aiment bien sûr. Ouais, les Invincibles, ouais. Fortune, ministère, où ces cinq gars donc, qui rentrent en première année de séminaire. Oui, ils aiment les bandes de potes. C'est le côté fraternel, je sais pas, mais.
C'est des bandes de potes ou l'univers du cul
Non, mais c'est. Puis, non, le truc sur les vampires, pareil, il sort un peu de.
Du non, reste. Limite, hein. Bon, je sais pas ce que ça peut donner derrière, mais c'est.
Amis scénaristes, j'espère que tu as bien écouté Dominique, qui t'a livré un pitch en or à vendre à Arte, une bande de potes qui couchent ensemble.
Et j'ai le même pour Canal, si vous voulez. Hein. Non, mais Arte... Les flics rue de Saint-Denis.
C'est ça.
Tu cartonnes.
Flic à Saint-Denis, la prochaine création originale de Canal+.
Mais tu vois, tu dis qu'ils essaient de se démarquer de la ligne éditoriale de Canal+. Ils ont les séries de cul tristes, je vais appeler ça comme ça. T'as un peu Pigalle, beaucoup Maison Close, et puis de l'autre côté, t'as Xanadu qui vibre sur la même fibre. Donc quelque part,
ils essaient de s'en démarquer,
avec un côté accidentel, parce que Xanadu, ça date de 3 ans. D'accord. Donc c'est avant tout ça.
Ça date de 3 ans.
L'idée de base. D'accord.
Xanadu, j'ai l'impression que ça va être un peu un truc quand même à part. C'est en plus, ils le mettent pas dans le même créneau à voir, mais. Est-ce que c'est peut-être une volonté aussi de
dire ça? Non,
ça peut pas être à 20h50.
Par deux.
Définitivement, ça peut pas être à 20h50.
Au moins par deux.
Ouais, je sais pas, mais oui, au moins de toute façon. De toute façon, ils les passeront pas un par un. Et
ça peut pas être avant, ça peut pas être plus tôt.
Voilà. Non, ça c'est sûr.
Alors, s'il y a des responsables d'Arte qui écoutent ce podcast, juste expliquez-nous. Expliquez-nous quelle est la logique derrière le fait de diffuser deux épisodes d'une série de suite. Alors, je parle pas à 20h50, parce que ça, bon, c'est ancré dans les mœurs, ça va être très dur de le changer, mais à 22h30. Juste, je ne comprends pas, ça n'a aucun sens. Donc, expliquez-moi.
Et quand vous diffusez une série comme Les Invincibles, où vous ciblez clairement un 15-30 ans, quoi.
Ouais.
Donc
15-35,
voilà. 15-35. Mais donc vous avez tout un de 15 à 25, les mecs qui sont lycéens ou étudiants, et ils ont peut-être pas envie de se taper la fin de l'épisode, du deuxième épisode à minuit et demi, quoi.
Ouais,
donc vous êtes de 22h20 à 23h20, c'est nickel chrome. Et le deuxième épisode, ben, c'est ce qui va faire que les gens, ils vont se dire, bon, ben, moi je vais aller regarder sur Dailymotion l'épisode. Et après, vous vous plaignez que vous n'avez pas les très bonnes audiences. Et par contre, vous regardez, vous faites « Oh, c'est spectaculaire, on a 500 000 vues sur Dailymotion. »
Une série, ça doit être une installation dans le temps. Une relation privilégiée avec le téléspectateur. Une relation privilégiée avec le téléspectateur ne s'installe pas en 4 semaines. Ou 3. Ça s'installe sur la durée. Si vous avez 2 mois d'exposition pour Les Invincibles pour une saison, ou 4 mois si vous diffusez les 2 saisons d'affilée, ça n'a aucune commune mesure avec l'exposition que la série a à l'heure actuelle, où le temps que la personne se rende compte que ça existe, c'est déjà plus diffusé.
Il y a quand même au moins un effort, parce que certes, ils ne le diffusent pas par un épisode par semaine, mais bon, au moins, ils ont le mérite d'essayer de fixer cette case.
Non, mais déjà,
c'est déjà un mérite. Parce qu'ils ont rediffusé les saisons 1 d'Invincible, ils ont enchaîné sur la saison 2, ils vont enchaîner sur Fortune, au même horaire, à une case identifiée. Et donc, quand même, il y a une cohérence.
Mais c'est pour ça.
C'est déjà assez rare pour être signalé.
Mais c'est rageant quand on voit qu'il y a une réflexion de ce côté-là,
oui.
Que de ne pas pousser plus loin et de se dire bah, pourquoi on ne briserait pas ce code-là qui est installé à 20h50, mais qui, je ne sais pas où il est installé à 22h30, quoi. Je ne comprends pas.
Donc la toute première série avec laquelle Arte est arrivé, c'est donc Les Invincibles l'année dernière, avec ce petit, enfin en gros le gros problème des Invincibles, enfin le problème.
Le reproche qu'on va lui faire.
Ouais.
Parce qu'on est des purs, mais parce que.
Le truc saillant en fait quand le truc arrive, c'est que Arte se lance, ils font un nouveau truc et leur nouveau truc c'est un remake. Est-ce que tout de suite ça a pas refroidi sur la ligne éditoriale
ça a refroidi surtout. Enfin, moi, j'ai envie de dire, faut qu'on distingue deux choses. C'est que, oui, nous, ça nous refroidit. Maintenant, Madame Michu, pour reprendre des gens qui ont beaucoup cité
Madame
Michu...
Et là, Dominique, il lève le doigt et il va dire, mais est-ce que Madame Michu regarde Arte, Émilie ?
Madame Michu, non, est-ce qu'elle a l'habitude de regarder de l'opéra sur Arte ?
Ne disons pas Madame Michu, mais alors, bon, allez, je sais pas, moi, Mike ! Allez, Mike ! Mike, trentenaire, dynamique, qui jette un coup d'œil parce qu'il se croit en, en CSP+, et se dit « Ah mais, on va regarder Arte, ça fait un télo !» Il regarde donc une série sur Arte.
Et qui s'appelle Michel, normalement, mais qui se
voilà,
fait Mike.
Voilà, parce que Mike, tu vois, il est dans la pub, quoi, il faut... voilà, bref.
Une queue de cheval.
Non, non, il, a, il est rasé avec un bouc. Donc... donc Mike, est-ce qu'il sait que c'est un remake? Et dans un sens, qu'est-ce qu'il en a à cogner? Lui, ce qu'il a envie de voir, c'est une série, de voir s'accrocher à des persos, etc. Donc, on...
Attends. Les Invincibles, à la base, série québécoise, 12 fois 50 minutes, quelque chose comme ça. Enfin,
ouais.
3 saisons.
Ouais.
D'accord. Série bouclée.
10 fois 50 minutes. Ouais.
10 ou 12, peu importe. Il y en a plus.
12,
bon.
12.
Nous, on est en 8 fois 52. Okay. 3 saisons, série bouclée. C'est-à-dire que la fin de la saison 3, c'est une fin brutale.
Ah oui, tu
d'accord
peux difficilement t'en remettre.
Voilà. Donc, nous, petits Français, on se dit, on l'adapte. Très bien, parfait. Enfin, il y a eu des cas exemplaires à droite à gauche. Imagine si les Américains se disaient, on va adapter stricto sensu The Office, et ça s'arrête dans une saison 3, dont la, et la troisième saison, c'est deux spéciaux de 90 minutes. Et là, en gros, les mecs donc de Making Bros disent, on vend une série qui, si à sa troisième saison cartonne en audience, t'en auras pas de quatrième, parce qu'on a adapté stricto sensu ce qui s'est fait au Québec. Une adaptation, d'accord, sur le premier, sur le deuxième épisode, d'accord, mais après, faut voler de ses propres ailes, parce que sinon, tu te heurtes à un mur. Et le mur, c'est là, bah, si ça marche vachement bien en troisième saison, si les audiences sont meilleures, eh bah, ben la série s'arrête. Très intelligent.
C'est là que la façon française de faire des remakes, effectivement, est vire au délire intégral. Ça a pas de, enfin, ça a quand même vachement peu de sens. Et on voit, enfin, on voit bien quand, enfin, quand les Américains font un remake, ils vont chercher des trucs anglais, enfin, The Office, Queer as Folk. Alors, effectivement, le pilote, il peut parfois être copié au plan près, quoi. Et mais sauf que, ben, The Office ou Queer as Folk, c'est la même chose. Dans le premier cas, vous avez quelque chose qui va entre 10 et 20 épisodes au maximum. Et puis les Américains, ils vous en tirent. Ils en tirent 5 saisons et 100 épisodes. Et nous, on s'enferme dans le recopiage, storyline par storyline, personnage par personnage, saison par saison.
Ce que je voudrais juste, je sais pas, j'étais pas là quand vous êtes allé voir les gars de Making Prod. Est-ce qu'on a une idée de, contractuellement, peut-être qu'ils y sont tenus, en fait?
Non, parce je que pense pas. Enfin,
tu peux te retrouver dans des... Dans des
oui,
dans,
ou
quand
alors,
tu rachètes, à être tenu, à conserver les storylines, etc.
Oui, mais alors, s'ils sont tenus à conserver les storylines, alors je vois pas pourquoi dans un contrat ils seraient tenus à conserver les storylines et d'un autre côté, ils auraient le droit de hacher et recomposer,
les épisodes,
c'est-à-dire qu'ils font 12 x 52, hacher, recomposer en 8 x 52. Dire vous conservez les storylines, c'est une démarche d'auteur de dire vous cassez pas notre jouet. Et qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils le cassent pas, faut pas exagérer non plus,
c'est pas
infamant non plus. Mais quand même, ils le hachent, ils le recomposent.
Oui, mais comme tu dis, malgré tout, les storylines sont conservées.
Ouais. On
donc
en avait...
après, ça dépend de à quel point ils sont contraints aussi contractuellement, potentiellement.
Ouais, mais à quel prix.
On en avait pas mal parlé l'année dernière, je trouve que sur ce que j'ai vu de la saison 2, je l'ai pas encore vu en entier, c'est vachement mieux géré.
Ils ont appris leurs erreurs, j'imagine.
Ouais, je suis vachement
sans doute.
Alors qu'elle a été produite avant la diffusion de la saison 1, c'est tourné.
Ouais, ouais.
Et il n'y a pas de problème structurel aussi flagrant et aussi invraisemblable. Enfin, dans la saison 1, il y a des trucs de fou. Tu dis, mais c'est pas possible. Ils n'ont jamais vu un épisode de série de leur vie, quoi. Tellement c'était structuré n'importe comment. Il n'y a pas de problème aussi. Les problèmes qu'on a soulevés dans la saison 1, c'est-à-dire qu'ils ont compacté deux épisodes, donc vous avez un épisode qui vous raconte deux histoires au milieu, les enjeux de la première histoire sont résolus et on passe à la suite. Ou plus loin dans les saisons, il y avait un truc de timing, de timer, machin, et le top chrono se terminait au bout de 10 minutes d'un deuxième épisode, enfin c'était délirant, quoi. Et là, ils ont vraiment corrigé ce problème dans la saison 2. Ils ont mieux réussi à se l'approprier.
Mais après, avec le thème de base des Invincibles, tu conserves le thème de base des Invincibles, tu crées vraiment une série à partir de là. Et je vois pas ce qui freine ça, à part, là je vais être méchant, de la fainéantise.
Globalement,
c'est horrible de dire ça, parce que ça se trouve, il n'y a aucune fainéantise de leur part, et c'est vraiment sincère. On les a rencontrés, ils m'ont pas semblé... J'étais pas choqué par leur
clairement,
propos.
T'as aussi un aspect aussi peut-être bête et con, qui est, il y a un truc qui marche, on crée, c'est quand même.
Oui, une, ça se trouve après, est-ce que c'est boîte, une commande de la chaîne de dire.
Il peut y avoir aussi stricto sensu. C'est moins risqué pour une boîte qui se crée de partir sur un projet où il y a des choses comme ça, de prévues, de qui on sait, ou non, mais même pour le diffuseur, pour essayer de pêcher un diffuseur. Un diffuseur qui sait où est-ce que la série va aller, qui a un aperçu global de l'intrigue, etc. Ben, c'est quand même plus simple à vendre que quelqu'un qui ne sait, qui part sur un pitch, sur une nouvelle boîte de prod avec des nouveaux auteurs.
On te rebat les oreilles sur le fait que ce qui se fait à l'étranger ne peut pas s'exporter chez nous parce que, soi-disant, on a une culture différente et qu'on ne peut pas... Et là, on se dit, la série québécoise, on la recopie telle qu'elle.
Oui, mais malgré tout, les personnages ont été mis à la
sauce. Non, ils ont changé leur prénom.
Non, mais... T'as pas les tics québécois que tu pourrais avoir dans le langage ou autre, c'est ça qui est gênant.
C'est le langage, oui, d'accord.
Voilà, mais c'est ça qui
la différence entre les deux, gênant. C'est le...
Le fond du personnage, enfin, qu'il soit québécois, qu'il soit français, je pense pas qu'il y ait un gap si énorme que ça.
Je sais pas, moi je vois pas
culturellement,
l'intérêt.
Culturellement, moi j'ai pas été choquée par les personnages qui sont actuellement dans Les Invincibles.
Surtout une série québécoise, quoi.
Il y a des trucs... par exemple, en fait, et dans ce fait qui m'ont gêné à l'écran dans le fait d'avoir copié-collé des trucs comme ça. Clairement, les scénaristes français des Invincibles, ils sont pas investis, ils connaissent pas, ils comprennent rien au fait que Hassan, il est fan de manga. Alors qu'en fait, la série originale québécoise des Invincibles, le côté pop culture est super présent en fait. Et ils nous avaient expliqué eux-mêmes, il y a plein de scènes, c'est des parodies de films, des trucs comme ça. Et ils ont viré tout ça parce que le côté méta, pop culture, machin, ça leur passe au-dessus, ils comprennent pas les scénaristes. Moi je pense aussi que la télévision c'est fait pour faire ça. Donc il y a un problème. Si on comprend, si on passe à côté de ça et qu'il y a un problème, c'est ça qui marche auprès du public. Enfin voilà. Donc, à mon avis, il y a un souci, mais bref, ils le sentent pas. Ils l'ont pas fait,
ouais,
je préfère.
Dans un sens, autant qu'ils... Ouais.
Sauf que comme c'est intrinsèque à un personnage, ils n'ont pas été capables de tirer jusqu'au bout et de l'enlever du personnage d'Hassan, notamment parce qu'en plus, c'est ce qui justifie les séquences en BD. Sauf que comme ils n'y connaissent rien, comme ils ne sont pas investis, comme ils écrivent sur un truc qu'ils ne connaissent pas, tout le côté BD du personnage d'Hassan est chiqué et on dirait un truc... c'est de l'hyperbole, on dirait d'un truc d'AB Production, tellement c'est chiqué, c'est faux, quoi. Dans la deuxième saison, il n'arrête pas de parler de super-héros de manga. Ça n'existe pas. J'ai jamais entendu un mec qui aime les mangas utiliser l'expression super-héros de manga. Ça n'existe pas. Et des gens qui maîtrisent la culture manga et la culture super-héros dans le public cible potentiel des Invincibles sont nombreux.
Oui.
Donc il y a beaucoup de gens qui, comme moi, vont dire « Putain, là, les mecs, pourquoi vous écrivez sur un truc, vous y connaissez rien, vous aimez même pas ça ?» Ça se voit et c'est très désagréable. Donc ça... C'est typiquement on est dans un point où ils ont copié-collé un truc du remake. Il fallait prendre de la distance. S'ils le sentaient pas, ils ont fait une connerie.
T'as le même exemple sur les apartés face caméra des personnages.
Mais ça, c'est nullement justifié.
C'est nullement justifié. Et ce qui est horrible, c'est quand tu te retrouves face aux auteurs et que tu leur dis, mais enfin, vous avez mis ça, mais c'est un peu daté. Et leur seul argument, c'est pas de te dire, on aime ça, on avait envie de creuser nos personnages via ça, c'était dans la version originale. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Ça veut dire qu'en gros, on leur a dit, tu refais la même chose, Coco, sauf que tu coupes, tu haches, faut que ça fasse 8 x 52. C'est pas du travail d'auteur. C'est du travail de, je sais pas, t'as un scotch, et puis tu remodèles un truc qui existe déjà. Je vois pas en quoi c'est... Les Invincibles a eu quel prix déjà?
Non, c'est pas l'innovation, je m'étais plantée.
Ah, tu t'étais plantée,
ouais.
D'accord.
J'ai vérifié, c'est pas l'innovation, c'est fiction dans je sais plus quel festival italien, obscur festival italien de fiction. Mais j'ai vérifié, j'avais vu passer, je suis sûre d'avoir vu passer sur Facebook prix de l'innovation.
Ouais.
Mais quand tu recherches sur le prix en lui-même, etc., les Invincibles, et que tu mets un obscur nom italien, tu retombes à un prix de la fiction. Mais c'est pas de l'innovation.
Pas de l'innovation, bon, ça va.
Mais sur Facebook, il y a eu innovation, ça j'en suis sûre. Parce que j'ai assez bloqué dessus. Bon, maintenant, globalement, là, on est en train de faire le procès des Invincibles sur le point qui est... D'accord, je suis d'accord, c'est un remake. Oui, moi aussi, ça m'emmerde royalement. Oui, ça provoque des tas de merde dans la série. Mais globalement, moi, les Invincibles, j'avoue que, franchement... Enfin, j'avoue, c'est même pas honteux. Moi, les Invincibles, j'ai aucun souci à les regarder.
Alors,
sur la saison 2, plus que sur
la série. Je vais poser le problème que je t'ai posé tout à l'heure en conversation off. Est-ce que tu as vu la version québécoise?
Non, voilà. Et c'est ce que je disais aussi. Je sais ce qui s'y passe. Je sais que je dois voir la version québécoise, une fois de plus. Merci Amazon Canada, parce que je ne les ai toujours pas, mes DVD. Ça fait plus de 6 mois que je les avais commandés. Bref.
Amazon Canada, si tu nous écoutes.
Voilà. Si jamais il y a quelqu'un d'Amazon Canada ou quelqu'un qui a un contact avec Amazon Canada, merci de leur dire de réapprovisionner le coffret avec les 3 saisons des Invincibles. Merci. Bref, c'est, oui, il y a un problème de remake. Mais non.
Mais je suis d'accord.
C'est foncier à la série. Enfin,
la saison 1 était quand même sympathique à regarder. Et la saison 2,
il y a plus de fond.
Et carrément agréable à regarder. Oui.
Moi, franchement, je, enfin, pour le coup, pour préparer le podcast, j'avoue que, étant un petit peu à la ramasse dans mon créneau, j'ai un peu regardé à l'arrache Les Invincibles et Fortunière. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Les Invincibles, ça passe très bien. Tu passes un bon moment, tu te marres. On reviendra après sur Fortune, mais c'était pas la même chose.
Tout de suite même, sauf... Ouais, vas-y.
Juste, toute petite aparté, le seul truc que moi je ne comprends pas, en fait, sur Les Invincibles, c'est... Arte se dit, on va acheter un programme qui a marché énormément, hein, parce que c'est un succès monumental, au Québec, en se disant, pour notre première fiction, c'est une valeur sûre. Mais malgré tout, on en revient au problème de départ, c'est pas du tout adapté à Arte. Donc, en quoi... c'est une valeur sûre pour Arte. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu prendre le problème à l'inverse et de se dire qu'est-ce qu'il convient le mieux à notre chaîne pour commencer à agripper des gens? On en parlait dans un autre podcast, ce qu'a fait AMC. AMC aux États-Unis, c'est une chaîne qui diffusait des vieux films des années 50, et qu'est-ce qu'ils font comme première série? Mad Men. Mad Men, qui est basé dans les années 60, qui reprend l'esthétique des films que la chaîne diffusait avant. Arte, en faisant Les Invincibles, choque son auditoire. En quoi le fait de se dire on va copier Les Invincibles, c'est une valeur sûre pour Arte? Et s'ils me disent derrière que on ne considérait pas les Invincibles, copier Les Invincibles comme étant une valeur sûre, bah c'est quoi la justification de copier Les Invincibles?
Après, c'est clairement, il y a une vraie volonté au sein d'Arte d'aller toucher un nouveau public, de faire plus d'audience et de se rajeunir. On retombe encore une fois sur une discussion qu'on a eue régulièrement, qui est que très bien, pourquoi pas. Sauf que vouloir faire ça sur une série avec une série de 8 épisodes, en 4 soirées, c'est juste absolument invraisemblable et inconséquent. Et les gens font ça, t'as l'impression qu'ils connaissent même pas la télévision.
Parce qu'ils veulent changer leur auditoire, mais ils le font sans prise de risque.
Voilà, si à un moment donné ils veulent changer leur auditoire, il faut qu'ils lancent 5 productions de séries dans cet univers-là, qui frappent un gros coup. Là, tu passes une saison des Invincibles 4 semaines en 2010, tu reviens un an après, enfin. C'est...
Bon, après, une fois de plus, comme on n'a pas arrêté de dire tout à l'heure qu'il fallait laisser le temps au temps et laisser le truc se mettre en place. Clairement, on connaît les cycles de production actuels en France. On ne produit pas des séries comme ça. Hein, les développements, la mise en place des budgets. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que pour Arte, débloquer des budgets, etc. Tu ne vas pas débloquer tout d'un coup.
Non, mais certes,
donc
mais
tu vas avoir forcément an ou deux pour mettre en place.
C'est pas la question, mais sauf que au moins, si les prochaines séries qu'ils produisaient étaient dans le même esprit,
exactement.
On dirait, ah ok, ils tracent une route.
Mais pour se mettre dans le même esprit, il faudrait qu'ils les définissent. On en est encore, pour moi, à tracer.
Excuse-moi, mais la première saison des Invincibles, ils l'ont tournée il y a 2 ans et demi maintenant. Ils ont eu le temps de prendre le recul et de caler leur commande sur ça. Et en fait, ils commandent dans tous les sens. Ils n'ont pas un public.
Et il faut qu'ils calent là-dessus, parce que j'en reviens là-dessus. Les Invincibles, c'est fini l'an prochain. Il n'y aura pas de saison 4. Il n'y aura pas de saison 5.
On sait déjà pas s'il y aura une saison 3, en fait. Mais...
on ne sait même pas s'il y a une saison 3, mais hypothétiquement, s'ils veulent conserver, s'ils veulent vraiment hameçonner cet auditoire, ils ne pourront plus le faire avec Les Invincibles. Donc, il faut relancer autre chose derrière.
Mais derrière, pour moi, quand tu regardes Fortune, typiquement, tu es sur le même créneau.
Tu es sur le même créneau, d'accord.
Alors, on enchaîne légèrement sur Fortune.
Donc, Fortune, parce que
un pilote qui est passé il y a un an et demi, à 90 minutes, qui a beaucoup marché.
Ouais.
Et ils ont décidé de décliner ça en série. Ça passe à partir de ce mois-ci, en mars. Globalement, si je résume, t'as pas été convaincu par la transformation en série.
Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que, pour le coup, au niveau cohérence, globalement, moi, je trouve ça beaucoup plus cohérent sur leur programmation, du coup, de passer Invincible saison 1, Invincible saison 2 et Fortune derrière. Pourquoi? Parce que Fortune, pour rappeler rapidement, c'est 4 potes, 2 frères arabes, 1 pote arabe et 1 pote gitan, En gros, ils ont quel âge? Ils ont entre 20 et 35 balais, quoi. Donc on retombe à peu près, enfin 25 et 35, quoi. Donc on retombe à peu près sur le même type de génération que les 4 mecs des Invincibles. Donc 4. Bon, à part que là, on est sur le côté communauté. Et c'est un peu dans le même trip. Ils se posent beaucoup. Enfin, c'est pas qu'ils se posent des questions, mais c'est en gros où est-ce qu'ils en sont dans leur vie et faire évoluer leur vie, et ainsi de suite. Donc on est quand même un peu sur la question fiction générationnelle. Toutes les questions, on est en train de passer à l'âge adulte, voilà, il va un moment, il va falloir qu'on se réveille. Bon, le téléfilm, j'ai peut-être eu le malheur d'enchaîner le téléfilm avec la série. Bon, certes. J'ai regardé le téléfilm avec grand plaisir. Pourquoi ? Parce que, justement, on a ce côté communauté, on a les Gitans, on a les Arabes, on a du cliché un petit peu qui vient, parce que forcément, on a les Portugais, j'ai oublié de dire, il y a aussi une communauté portugaise, parce que le héros, Brahim, se fait une Portugaise qui met enceinte dans le téléfilm. D'accord. Et bien sûr, les parents ne savent rien, enfin, tout le problème des communautés, des mariages arrangés, et ainsi de suite. Dans le téléfilm, j'ai trouvé que ça avait été plus finement traité, enfin, finement traité dans le sens où on ne tombait pas dans le lourdingue du cliché. Où derrière, on s'attachait facilement au perso, quel qu'il soit, malgré les petites magouilles, malgré tout ça. Enfin, il n'y avait pas de soucis. Globalement, ça avait un bon rythme. Déjà sur les 1h30, vous avez des relances d'intrigue un peu. Mais bon, globalement, ça se regardait bien, avec plaisir, tu suivais bien. La série, j'ai vu. Bon, je n'ai vu que la moitié. Je pense avoir vu la bonne moitié pour l'instant. C'est ça qui me fait peur. C'est un peu que, il faut avouer, la série n'a pas le même type de réel. Beaucoup moins intéressante, il y a des plans plus larges, l'intrigue globalement manque de cohérence, et c'est là que ça pêche le plus, c'est que ça manque de cohérence sur le truc, ça m'a fait penser, je ne veux pas vous raconter l'intrigue, on va rester, donc ça m'a juste fait penser à la fin de la saison 2 de Fais pas ci, fais pas ça.
Donc si vous vous souvenez de notre numéro du podcast, voilà. On a discuté de la saison 2 de Fais pas ci, fais pas ça, là vous avez peur.
Voilà, parce qu'en gros, vous voyez Une famille formidable, à un moment ça part un peu sur des thématiques qui partent un peu en vrille comme ça. Et le deuxième problème, et qui est, donc ça c'est déjà c'est le problème de l'intrigue, bon, ils ont voulu le faire un peu plus marrant, donc ils ont mis Attaque à notre soin, et forcément et la cohérence n'a pas suivi du tout. Par contre, au niveau des persos, on perd en cohérence sur certains aussi, ça c'est une chose, et ce que je trouve être limite le pire, et surtout ce qui enlève le charme de la série, c'est qu'à force de vouloir faire de la communauté, ils en ont mis 50. Donc on avait la communauté arabe, on avait la communauté portugaise, on avait les communautés gitans, on n'avait qu'un représentant. Bah maintenant on a tout le clan des gitans, on a la communauté chinoise. Alors j'ai plaisir à retrouver Patrick Vaux qui jouait Jean-Michel dans Aérocorps. Mais bon, toute la famille chinoise, qui avec tout le beau cliché, hein, le resto asiatique, la nénette qui fait les bénédictions de terrain et de boutique et machin avant... façon asiatique, voilà, ok, et ainsi de suite, donc on cumule, et alors après, il y a des histoires, vous verrez, avec un chèque à Beyrouth, enfin, ça part vraiment, et ce qui fait que, clairement, moi, j'ai peur, j'ai vu les 4 premiers, je vais regarder la série complète aussi, parce que je veux vous en parler derrière, mais j'ai un peu plus peur sur la cohérence de la série, je pense qu'il y a eu un vrai relâchement, autant il y avait eu un effort sur le téléfilm, autant là, on a l'impression que ça a été ouais, mais il faut rajouter un peu de ça, faut rajouter un peu de ça. Ouais. Et au bout d'un moment, bah oui, mais les gars, faudrait peut-être que vous parliez entre vous.
En gros, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'entre le téléfilm et la série, plutôt que d'approfondir ce qu'était le téléfilm, ils ont élargi, en fait, ouais. Pour faire plus d'épisodes.
Alors, c'est même pire qu'élargir, en fait.
D'accord.
Ben non, mais parce que élargir, ça aurait voulu dire, si tu veux, il se place temporellement, en gros, je pense plus ou moins sur que le téléfilm, elle était enceinte, là, le gamin, il doit bien avoir 6 bons mois, donc 1 an et demi, 2 ans, on va dire, parce qu'il y a peut-être plus de 6 mois, hein, je suis pas experte, j'avoue. Mais il a des cheveux, il se tient debout dans son parc. Dominique ?
Un an et demi, 2 ans, ouais.
Oh, plus petit, je pense quand même. Plus petit que 2 ans. Bref. Le gamin, donc en gros, ils font comme si on avait fait un saut qui équivaut à la période où il n'y a pas eu de série diffusée, d'épisodes diffusés sur Fortune. Et oui, il y a l'élargissement par rapport aux communautés, il y a une problématique plus grande, parce que là où il y avait ces galères au début financières pour monter son agence, etc. Mais globalement, Brahim, il est toujours en train de dire « Oh, je suis dans la merde ». Bon, il y a un système de relance aussi de l'intrigue qui n'est pas franchement... pas franchement génial un peu tout le long de la saison. Je suis en train de démonter la série, je suis désolée, vous aurez plus rien pour ma critique, mais en gros, et regardez quand même histoire de voir. Au secours.
L'argumentaire, si vous êtes curieux. Hein,
bon. Non, parce que je.
Faut
que
tu fasses des publicités sur les chaînes. Des pubs d'auto-promo, ça va être génial.
Vous aimez les accidents de voiture. Un train qui déraille, ça vous excite. Hein. Regardez Fortune en mars sur
Pourquoi
Arte.
Pourquoi est-ce que tu prends ta voix comme si tu présentais Xanadu, s'il te plaît?
Parce qu'on va enchaîner, on va parler Xanadu maintenant.
Mais globalement, non, je voulais pas descendre Fortune avant de l'avoir vu, et je voulais pas descendre Fortune parce qu'il y a quand même, franchement, il y a des personnages auxquels on s'est attaché et que le téléfilm est plutôt bon et que on sent qu'il y a quand même eu un effort, mais ouais, pour l'instant non, je peux pas dire que c'est bon, clairement.
Et sinon le bébé il marche ou il se tient debout?
Il se tient debout.
Ah, il se tient debout.
Ouais.
Ouais, bah 9-10 mois.
9-10 mois, ouais. On est d'accord. Ouais.
Et donc à partir de la fin du mois d'avril, Arte va nous proposer une troisième série qui sera Xanadu, qui va passer le samedi soir, donc à 22h30. Et alors c'est marrant parce qu'en fait je t'entends parler de Fortune et donc ouais, j'ai vu trois épisodes de Xanadu et en gros j'ai l'impression de tomber sur certains problèmes un peu similaires en fait, dans le sens où, où moi j'ai l'impression que le problème de la série d'Arte c'est qu'elle n'est pas cadrée du tout. J'ai l'impression que personne à Arte
libre cours au créatif.
Exactement. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire de la série de la même manière qu'ils ont fait du cinéma d'auteur pendant 20 ans. Je te valide plus ou moins ton scénario et puis va, t'es un auteur, débrouille-toi quoi.
Ouais.
Et sauf que c'est de la série, les gars, c'est pas du film d'auteur et c'est pas pareil. Et donc Xanadu, ça se passe donc une famille, c'est Dallas dans une famille qui au lieu d'avoir des puits de pétrole a un empire du porno quoi. Et donc, mais alors tout ça est enfin pas forcément super volontairement, enfin d'après quand on parle aux gens qui l'ont fait. En tout cas le résultat est vachement arty, vachement expérimental. Structurellement il y a plein de trucs. Vous montrez ça à un scientifique du scénario à l'américaine, vous savez, il fait des bons quoi. Le personnage principal du premier épisode, dans les épisodes 2 et 3 il a 2-3 scènes, c'est tout.
Ah, punaise.
L'ensemble
est conceptuel.
Ouais, donc après on est quelque part pas dans l'espèce de maladresse parce que tout tient du concept, du conceptuel, de l'expérimental et de l'arty. La réalisation est en cohérence avec ça, etc. Donc voilà, donc
le ton est donné direct. Hein. De toute façon, tu peux pas te tromper, tu peux pas croire que tu vas avoir un truc classique.
Ouais, on est carrément, on est dans l'objet sériel non identifié. C'est-à-dire, il y a une
c'est pas évident hein, comme troisième série quand même. Hein.
Non, du tout. Il y a une anecdote qui, à mon avis, est assez flagrante et assez révélatrice, qui est que là, cet automne, les gens de chez Arte, ils reçoivent les premiers épisodes de Xanadu terminés. Et donc les gens d'Arte mettent les épisodes dans leur machine à DVD, ils lancent l'épisode et là... Et la choc à Arte découvre sur l'écran, il y a des sexes en érection, filmés plusieurs fois.
Ils étaient à l'époque.
Et là, ils sont pas contents. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est du porno, on peut même pas passer ça avant minuit et tout, machin. Donc, très bien, et il faut juste aller jusqu'au bout, tirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un mec chez Arte qui a regardé les rushs, en fait. Ils les ont laissés partir, filmer ce qu'ils voulaient, et ils ont récupéré le produit fini à la fin.
Ils sont pas interventionnistes alors, du tout.
Ah non,
hein.
C'est libre cours.
Alors là, les lâchés les chevaux sur Arte, ils sont heureux, quoi, les mecs. Bon, alors moi, je dis, on va filmer une partout, on les met tous à poil, on filme en grand plan. C'est... Ils peuvent, hein, s'ils veulent. Allez-y, chez Arte, c'est open bar. Enfin,
remarque, ils vont peut-être changer maintenant.
J'espère.
Après un traumatisme, généralement, tu te radicalises. Hein,
sachant que, bon, en off, ça circule que le mec, enfin le patron de la fiction d'Arte a un peu gentiment pété les plombs en voyant ça, quoi. Donc, ce qui fait que maintenant, nous, dans les versions qu'on a, celles qu'on a vues au FIPA, celles qui sera diffusée, les plans les plus. En gros, les sexes en érection sont floutés, quoi.
Mais que les sexes en érection.
Ah, c'est bien, ça fait pas du tout sortir d'une fiction, ça, quand tu vois un
du
truc.
Du tout, quand il y a un gros truc.
Tu vois un truc flou.
Ouais, enfin, en même temps, le reste, c'est pas forcément à se mettre dans la fiction.
C'est
ça.
si tu veux, t'as une scène de dialogue entre deux mecs dont un à poil qui se masturbe, ça te fait un peu sortir de la façon aussi. Hein.
Non, mais moi je vais raconter l'autre, celle où t'as le mec qui se met de l'huile au début gentiment sur le torse, t'as la nénette au fond, et qu'à un moment, quand tu vois le plan un peu plus large où en fait t'as la nénette au fond, au premier plan, t'as le mec qui est en train de se mettre de l'huile sur les couilles et sur la bite, en train de jouer gentiment, ah bah oui, et au premier plan pendant 3 minutes, ok. Si tu veux.
Non mais donc, ça, ça installe l'univers.
Voilà.
Ouais.
Donc, enfin tout ça participe à donner et donc voilà et scénaristiquement ça part aussi vraiment dans tous les sens. J'ai pas envie d'être méchant parce que Xanadu ça m'a pas déplu. Ouais. On a regardé 3 épisodes, ça représente 3 heures de projection. Enfin, il y a d'autres trucs. Ils ont coproduit Les Mystères de Lisbonne. Je jure, je tenais pas 3 épisodes hein, dans ce truc, cette coproduction franco-portugaise. Donc j'ai tenu les 3 épisodes. Le problème, c'est que ça m'a intrigué intellectuellement, ça m'a presque fasciné, mais que ça m'a pas impliqué et qu'il y a eu zéro empathie.
Ah, mais,
parce ouais. que c'est un univers froid, bizarroïde, et que toutes ces expérimentations. Enfin, voilà, le fait d'avoir un personnage principal dans le premier épisode qui passe les deux épisodes suivants dans un ailleurs compris entre notre monde et le paradis, à se demander dans lequel des deux il va.
Je trouve ça un petit côté. Moi, ça me tout compte fait quand tu dis ça. C'est vrai que moi non plus, j'étais complètement out. En fait, tu te demandes où est-ce que ça va. Ouais. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu en regardant Mulan Drive, si tu veux. Le truc, tu te demandes ce qui se passe.
Bah, moi, j'ai posté sur Twitter après avoir vu que ça me semblait super lynchien. Et donc, que j'avais vachement de mal à critiquer les 3 épisodes que j'avais vus de Xanadu. Et je suis pas un fan de Lynch, hein, en fait, faut que je précise. J'avais du mal à dire quelque chose sur les 3 épisodes de Xanadu. J'avais l'impression d'être arrêté après une heure de Mulan Drive. Et donc, du coup, j'ai même pas idée de savoir si en arrivant à la fin de Mulan Drive, je vais avoir compris quelque chose ou pas. Je suis au milieu du guet, quoi. Alors, est-ce qu'à la fin tout s'explique ? J'ai un peu des doutes, mais où est-ce qu'au moins ça s'explique un peu ?
Bah, déjà, grave erreur, c'est qu'ils ont. C'est encore une fois un exemple de série traitée comme un film découpé, parce que si t'as pas déjà quelque chose qui t'attire ou qui te fait comprendre ce qui se passe au bout de 3 épisodes, c'est un échec pour une série.
Un peu, ouais. Après, il y a des intrigues bouclées dans les épisodes.
Moi, j'ai vu que le premier.
Il y a des intrigues bouclées dans les épisodes qui. Mais qui en fait, qui elle aussi quasiment déroute parce qu'elle joue parfois sur la linéarité, il y a la fin avant le début, enfin.
Par contre, il y a un cas qui est quasiment scolaire, faudrait le montrer dans les écoles de scénario quand tu veux devenir scénariste pour série, c'est la série Scalp. Qui a énormément de qualité, mais qui est plombée par le fait que dans le premier épisode, tu suis un personnage qui est amené à mourir, à se suicider. Et c'est impossible de rentrer dans une série quand ton point d'entrée disparaît aussitôt. Donc il y a plein d'exemples où la personne par laquelle tu t'intègres à la série, donc Urgence, John Carter, Homicide, Tim Bayliss, X-Files, Scully, voilà, c'est le point de repère. Donc ton point de repère, si tu le perds au bout d'un épisode, c'est que déjà t'écris pas une série télé.
Et donc, en fait, là, le personnage principal du pilote, c'est un personnage intégré. Et dans le premier épisode, il y a un autre personnage qui s'est éloigné de la famille, une sœur qui revient. Mmh. Et donc, ça pourrait être notre point d'accroche.
Ouais.
Problème, c'est un clone d'Hélène Filière qui y joue. Donc, le personnage est d'une froideur totale et dégage zéro émotion, en fait. Donc, raté.
Non, mais globalement, il n'y a pas un perso qui m'a fait accrocher. Au niveau émotionnel.
Moi, au stade du pilote, je me posais des questions sur le deuxième frère, l'artiste Barré.
Oh non, moi, c'est pareil. Lui, il est dans son monde.
Sauf que moi, je sais que, par exemple, j'ai tendance à assez facilement accrocher à ces personnages autistico-lunaires. Mmh. Ça m'attire assez. Ils peuvent me faire accrocher. Des trucs anglais, un truc comme Middlelands, Capewath. Il y a un fils de la famille comme ça, complètement. C'était lui qui m'avait accroché à la série. Et ce mec-là, et ce personnage-là, est joué par Swan Arlo, je crois, qui jouait le bleu dans la saison 2 d'Engrenage.
Mmh.
Qui était vraiment. Enfin, ce mec, c'est une machine empathie, quoi.
C'est ton point d'entrée dans la série.
Saison 2, dans Engrenage, il était dans 3 plans, il vomissait à l'entrée. Et tout de suite, par lui, tu rentrais, quoi. Et sauf que le problème, et je trouve qu'il y a toujours ça dans cet acteur, sauf que le personnage devient tellement barré, et tellement space, tellement limite monstrueux, que même lui, passé le deuxième épisode, ça. Donc voilà, Xanadu, série expérimentale, qui met en lumière le fait que à mon avis, vraiment, il y a un problème de culture
de culture, pas au sens de savoir, mais de savoir-faire de la télévision, de la série en fait, à Arte. Autrement dit, je pense que pour l'instant, enfin, dans ce qu'on a vu jusque-là, les gens qui s'occupent de la fiction Arte ne connaissent pas la série, ne connaissent pas le genre et ne savent pas en faire. Donc, à mon avis, si c'est pas déjà fait, il faut qu'ils recrutent de l'extérieur des gens qui maîtrisent les codes des séries.
Ouais, tout à fait.
Parce que pour l'instant, ils ont pas. Clairement, Arte n'a pas un regard extérieur constructif qui peut permettre de cadrer les choses. Du coup, ça nous ramène au début, parce que je comprends drôlement mieux qu'ils aient fait un remake pour commencer.
Ouais.
Parce que du coup, tout s'explique.
Savent pas ce qu'ils font. Oui.
Sachant qu'ils savent pas ce qu'ils font. Là, ça s'explique.
Et ça explique pourquoi l'épisode 2 de la saison 1 des Invincibles est une hérésie structurelle et qu'il a réussi à passer. Si tu connais la série, si tu en as vu deux dans ta vie, tu sais que ça n'existe pas, ça peut pas exister.
C'est vrai que normalement, ça devrait pas passer les notes d'une chaîne.
Exactement.
Et du coup, pour conclure, il y a une annonce en fait le jour où on enregistre ce podcast qui était le tournage de leur prochaine série. Qui est l'Odyssée, qui est une autre production de Making Prod, donc on voit qu'ils essayent de créer déjà des relations de confiance avec
des
gens.
C'est déjà bien.
C'est déjà une bonne chose. Et en fait, je ne savais pas jusqu'à présent, j'ai appris que le mec qui a dirigé l'écriture de l'Odyssée, ce n'est autre que Frédéric Krivine, donc scénariste star de la télé française, qui s'occupe d'un village français, qui a fait PJ aussi avant. Ce qui laisse entendre qu'il... après, faudrait voir est-ce que ça vient d'Arte, de Making, ou je sais pas. Mais ça laisse quand même. Ça esquisse une volonté de se retourner vers des gens qui eux maîtrisent.
Ouais.
Donc c'est plutôt bon signe.
C'est pas plus mal, oui.
Clairement, voilà, c'est sur ça qu'il va falloir qu'ils travaillent. Et c'est sur ce point qu'il va falloir qu'ils nous convainquent dans les années à venir. Il va falloir qu'ils nous montrent qu'ils peuvent acquérir une expertise.
Que c'est dans pas le juste un laboratoire, qui sont pas que sur la question d'expérimentation, quoi.
Parce que l'expérimentation elle est pas choquante, mais il faut quand même s'entourer de gens qui savent. L'expérimentation avec des scientifiques qui savent pas maîtriser leur science,
mais globalement c'est ça, ils sont à un stade où ils...
Ah tiens, si on faisait de la série.
Il faut absolument qu'on fasse de la série, parce que c'est ça que les gens regardent, etc. On est obligé, les mecs. Bon,
c'est comme ça qu'on fidélisera une audience.
Voilà.
Bon, déjà, ils se sont rendus compte de ça.
Oui, non mais...
C'est déjà un progrès. Non, mais en plus, on tape dessus parce que pour l'instant, c'est pas abouti et ça fait un petit peu autant peur que ça excite, en fait. Mmh. C'est surtout ça, mais c'est déjà bien qu'ils aient fait cette démarche-là.
Leur démarche est bonne, leur point de départ, leur stratégie de programmation, ils ont mis des choses intéressantes. Voilà, donc...
Mais après oui, voilà, c'est logique que pour moi, voilà, on ait des séries qui soient encore un peu bizarres, des trucs qui soient pas forcément très bons... il faut leur laisser encore une ou deux saisons, je pense.
C'est ça, si on avait fait un podcast à la fin de la première année de la série Canal+,
ça aurait pas...
Bon, on aurait eu la chance d'avoir Reporter qui nous aurait vraiment enthousiasmé. C'était le gros avantage. Je pense qu'ils ont réussi à faire un truc vraiment vachement réussi sur leurs 4 premiers. Mmh. Bon, après tout, ouais, alors que là, il y a déjà eu 4, finalement, il y a eu Venus Apollon, Les Invincibles, Fortune, Xanadu. Bon, ils ont pas dépassé la phase de recherche encore. Mmh. Donc, à voir si ça s'établit. Encore une fois, s'ils arrivent à eux à acquérir les compétences, soit s'ils arrivent à s'entourer de gens qui maîtrisent.
C'est surtout ça. Ouais.
Je serai à la recherche d'un emploi d'ici quelques mois.
Bon, bah, écoutez, je pense qu'avant que notre tête explose, il va falloir mettre fin à ce podcast.
C'est déjà fait, mais...
Bon, pour expliquer la tête qui explose, c'est pas juste le podcast starté, puisqu'on a fait le podcast précédent la même soirée. Hein, je précise encore.
Le double podcast précédent.
Voilà.
Ou triple, je sais pas.
Ouais.
Double a priori.
Quadruple.
Bon, bah, je dis au revoir, moi, du coup, au revoir.
Au revoir.
Bonjour chez vous.
Au revoir.